Yep, all ready.
Bonjour à tous, bienvenue dans Encore Heureux. Les poètes n'ont pas de biographie. C'est leur œuvre qui est leur biographie. Pessoa, qui douta toujours de la réalité de ce monde, accepterait sans hésiter d'appartenir exclusivement à ses poèmes, en oubliant les incidents et les accidents de son existence terrestre. Et pourtant, derrière l'écrivain, il y a toujours quelqu'un, n'est-ce pas ? À moins que dans le cas précis de Fernando Pessoa, il n'y ait en fait personne, seulement un fantôme, un être insaisissable, multiple, un masque ou des masques. Pour preuve, en portugais, Pessoa signifie « personne ». Fernando Antonio Nogueira Pessoa est né à Lisbonne en 1888. Son père était fonctionnaire au secrétariat à la justice et publiait régulièrement des critiques musicales. Il meurt très tôt, à 44 ans, de la tuberculose. La mère de Fernando Pessoa était une femme cultivée, parlant quatre langues, poétesse à ses heures. Remariée avec le consul du Portugal en Afrique du Sud, elle y embarque son fils, dont l'éducation se fera désormais en langue anglaise. Pessoa reste en Afrique du Sud jusqu'en 1905. À 17 ans, il revient au Portugal et s'installe à Lisbonne, où il vivra jusqu'à sa mort, chez des parents ou dans des chambres en location. Il travaille comme correspondant commercial dans des firmes, du quartier de la Baixa, près du Tage. Il fréquente les cercles littéraires d'avant-garde, évoluant vers un anticonformisme de plus en plus radical. Il publie peu pendant son existence et presque uniquement dans des revues, ce qui ne l'empêcha pas de jouir de son vivant d'un immense prestige. La plupart de ses œuvres sont signées par ce qu'il appelait ses hétéronymes, des doubles littéraires à qui il inventait une vie, un métier, un caractère, une véritable biographie. Lorsqu'il meurt, à 47 ans, des suites de son alcoolisme, on retrouva chez lui une malle contenant 27 543 textes signés par plus de 72 auteurs, dont le fameux Bernardo Soares, son alter ego littéraire le plus célèbre, modeste employé de bureau à la vie insignifiante, s'il n'était l'auteur-narrateur du livre de l'intranquillité, le chef-d'œuvre auquel Pessoa a travaillé pendant plus de 20 ans et qui n'a été publié qu'en 1982. Le livre est constitué des milliers de fragments que Pessoa a déversés en vrac dans cette malle tout au long de sa vie. Des milliers de textes sans plan, sans souci de mise en scène littéraire, encore moins d'intrigue, et qui ont été rassemblés, puis ordonnés après sa mort. De tous les ouvrages de Pessoa, le livre de l'intranquillité est celui qui lui ressemble le plus, celui qui le met véritablement à nu. L'intranquillité, selon lui, est l'incapacité pour sa conscience fluctuante de s'amarrer au réel, à soi-même, au monde, l'incapacité à être quelqu'un. Le miracle est que cette expérience de l'inexistence, de la nullité, dit Pessoa, s'exprime dans une prose d'une richesse incomparable. L'écrivain passe de l'angoisse existentielle la plus sombre à une résignation paisible. Les choses ne sont rien, et même les dieux passent. D'ailleurs, cette vie n'est rien si l'art ne vient lui donner un sens, écrit-il. Le livre de l'intranquillité est le journal de bord de cette vie spirituelle intense, d'une totale et constante lucidité, une autobiographie sans événement, selon l'expression même du poète, celle d'une âme qui s'évertue à ne pas vivre et qui cultive sa haine de l'action comme une fleur de serre. Décousu, morcelé, Le livre de l'intranquillité demeure d'une force et d'une lucidité impressionnantes. Cette lucidité qui est la vertu des plus grands auteurs, ceux qui transforment l'intime en universel. On ne trouve dans ces pages aucune espérance, aucun désir de rémission, aucun salut, pas davantage d'apitoiement sur soi. Pessoa nous parle de son monde intérieur, parce que c'est pour lui le paysage le plus réel. Ce qu'il y trouve, le chaos et un sentiment de nullité et de désespoir total. Je suis en grande partie la prose même que j'écris. Je suis devenu un personnage de roman, une vie lue. À force de me recomposer, je me suis détruit. À force de me penser, je suis devenu mes propres pensées, mais ne suis plus moi. Je me suis sondé et j'ai laissé tomber la sonde. Je passe ma vie à me demander si je suis profond ou non, sans autre sonde aujourd'hui que mon regard, qui me montre, clair sur fond noir dans le miroir d'un puits vertigineux, mon propre visage qui me contemple en train de le contempler. Fernando Pessoa, champion de l'introspection sans frein, champion du sentiment de vide et de l'absurdité du monde, extrême sensibilité, extrême noirceur, reprenons un peu de force et de vigueur avec une dose de rock anglais, Freddy, en quelque sorte, au secours de Fernand.
I've paid my dues time after time. I've done my sentence but committed no crime. And bad mistakes I've made a few. I've had my shouts and kicks in my.
Je me trouve dans un tram et j'examine lentement, à mon habitude, tous les détails concrets des personnes qui se trouvent devant moi. Pour moi, les détails sont des choses, des mots, des lettres. Cette robe que porte la jeune fille assise en face de moi, je la décompose en ses divers éléments. L'étoffe dont elle est faite et le travail qu'elle a demandé, puisque je la vois en tant que robe, et non pas comme simple étoffe. La fine broderie qui borde le ras du cou se décompose à son tour. Le galon de soie dont on l'a brodé et le travail qu'a demandé cette broderie. Et immédiatement, comme dans un ouvrage primaire d'économie politique, se déploient sous mes yeux les usines et les activités diverses. L'usine où l'on a fabriqué le tissu, l'usine où l'on a fabriqué le galon d'un ton plus foncé qui a servi à orner, de petites choses entortillées, l'endroit qui fait le tour du cou. Et je vois les ateliers dans les usines, machines, ouvriers, cousettes. Mes yeux tournés vers le dedans pénètrent dans les bureaux. Je vois les directeurs chercher un peu de calme et je surveille dans les registres la comptabilisation de chaque chose. Mais je ne m'arrête pas là. Je vois au-delà la vie familiale de ceux dont la vie quotidienne s'écoule dans ces usines et dans ces bureaux. Le monde entier se déroule sous mes yeux. Du seul fait que j'ai devant moi, au-dessous d'un cou brun, qui de l'autre côté supporte je ne sais quelle tête, une bordure irrégulièrement régulière, d'un vert sombre sur le vert plus clair de la robe. La vie sociale tout entière gît sous mon regard. En outre, je devine les amours, les cachotteries et l'âme de tous ceux qui ont œuvré pour que la femme qui se trouve là devant moi, dans un tram, porte autour de son cou de mortel la sinueuse banalité d'un galon de soie vert sombre se détachant sur un tissu d'un vert plus clair. J'ai le vertige. Les banquettes du tram, garnies de paille aux brins alternativement plus fins et plus robustes, m'emportent vers des régions lointaines, se multiplient en industries, ouvriers, maisons d'ouvriers, existences, réalités, tout. Je descends du tram, épuisé, somnambulique. J'ai vécu la vie tout entière. Encore heureux. Portrait d'écrivain par Gaël Heureux sur Radio B. Je considère la vie comme une auberge où je dois séjourner jusqu'à l'arrivée de la diligence de l'abîme. Je ne sais où elle me conduira, car je ne sais rien. Je pourrais considérer cette auberge comme une prison, du fait que je suis contraint d'attendre entre ses murs. Je pourrais la considérer comme un lieu de bonne compagnie, car j'y rencontre des gens divers. Je ne suis cependant ni impatient, ni de goût vulgaire. Je laisse à ce qu'ils sont ceux qui s'enferment dans leur chambre, amorphes, étendus sur un lit, où ils attendent sans pouvoir dormir. Je laisse à ce qu'ils font ceux qui bavardent dans les salons, d'où les voix et les musiques me parviennent et me frappent agréablement. Je m'assieds à la porte et j'enivre mes yeux et mes oreilles des couleurs et des sons du paysage et je chante à mi-voix, pour moi seul, de vagues chants que je compose tout en attendant. La nuit descendra et la diligence viendra pour nous tous. Je goûte la brise que l'on me donne et l'âme qu'on m'a donnée pour la goûter. Et je n'interroge ni ne cherche davantage. Si ce que je laisse écrit sur le livre des voyageurs peut, relu quelques jours par d'autres que moi, les distraire eux aussi durant leur séjour, ce sera bien. S'ils ne le lisent pas ou n'y trouvent aucun plaisir, ce sera bien également. J'éprouve un dégoût physique pour l'humanité ordinaire. C'est d'ailleurs la seule qui existe. Et la fantaisie me prend parfois d'approfondir ce dégoût, de même qu'on peut provoquer un vomissement pour soulager son envie de vomir. Une de mes promenades favorites consiste à partir lentement à travers les rues, avant l'ouverture des magasins et des boutiques, en écoutant les lambeaux de phrases que les groupes de jeunes gens ou de jeunes filles, ou les deux, laissent tomber. Et c'est toujours la même succession des mêmes phrases. Alors, elle m'a dit. Et le ton à lui seul révèle son amour de l'intrigue. Si ça se trouve, c'était... Et le rire de trois jeunes filles couvre à mon oreille une obscénité quelconque. Ma mère m'a dit qu'elle ne veut pas... affirme une cousette d'une voix stridente. Alors je me suis plantée devant le type et je lui ai sorti en pleine figure. En pleine figure, hein, José ? Les intrigues, la médisance, le récit enjolivé de ceux qu'on n'a jamais osé faire, la satisfaction que tous ces pauvres animaux habillés tirent de la conscience inconsciente de leur âme, la sexualité sans savon, les plaisanteries qui ressemblent à des chatouilles de singes, leur ignorance horrible de leur totale inimportance. Tout cela me fait l'effet d'un animal monstrueux et abject, composé des croûtes humides du désir, des restes mâchouillés des sensations. Que peut-on raconter d'intéressant ou d'utile ? Ce qui nous est arrivé ou bien est arrivé à tout le monde, ou bien à nous seuls. Dans le premier cas, ce n'est pas neuf, et dans le second, cela demeure incompréhensible. Si j'écris ce que je ressens, c'est parce qu'ainsi je diminue la fièvre de ressentir. Ce que je confesse n'a pas d'importance, car rien n'a d'importance. Je comprends parfaitement les femmes qui font de la broderie par chagrin et celles qui font du crochet parce que la vie existe. Ma vieille tante faisait des patiences pendant l'infini de ses soirées. Ces confessions de mes sensations, ce sont mes patiences à moi. Vivre, c'est faire du crochet. Toutefois, tandis que le crochet avance, notre pensée reste libre et tous les princes charmants peuvent se promener dans leurs parcs enchantés, entre deux passages de l'aiguille d'ivoire au bout recourbé. Crochet des choses, intervalle, rien. D'ailleurs, que puis-je tirer de moi-même, que raconter ? Une acuité horrible de mes sensations et la conscience profonde du fait même que je vis ces sensations, une intelligence aiguë utilisée à me détruire et une puissance de rêve avide de me distraire, une volonté morte et une réflexion qui la berce, comme un enfant vivant, le crochet, oui. Vous êtes sur Radio B, vous écoutez Encore Heureux. Chers auditeurs, merci. La prochaine émission de Encore Heureux sera consacrée à Stephen King. Un Stephen King un peu particulier, loin du noir, loin du sang et de l'horreur. Je vous parlerai de son livre « Mémoire d'un métier, écriture », qui est à la fois un récit autobiographique brillant et un essai, génial et décapant, sur la création littéraire. En voici un aperçu. Tiré de l'avant-propos écrit par Stephen King lui-même. Ce livre n'est pas bien long, pour la simple raison que la plupart des livres qui parlent d'écriture sont pleins de conneries. Les romanciers, moi y compris, ne comprennent pas très bien ce qu'ils font, ni pourquoi ça marche quand c'est bon, ni pourquoi ça ne marche pas quand ça ne l'est pas. J'imagine qu'il y aura d'autant moins de conneries ici que le livre sera court. Sur ces bonnes paroles pleines de sagesse, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. À très bientôt sur Radio B.